Nous sommes en pleine guerre de libération conduite par le chef juge Gédéon. Il a suivi toutes les directives de l'Éternel et avec seulement 300 hommes, s'est attaqué aux ennemis d'Israël d'une manière très peu orthodoxe. Ils ont d'abord cassé tous ensemble une cruche qu'ils portaient et qui cachait une torche allumée. 300 jets de lumière sont apparus d'un seul coup autour du camp ennemi. Alors, et tout de suite, chacun d'entre eux s'est mis à souffler à plein poumon dans leur corps de guerre. Ce fut sans conteste un spectacle son et lumière de première qualité, mais pas une façon sérieuse de faire la guerre. Je continue à lire dans le chapitre 7 du livre des juges. Les hommes dans le camp se mirent à courir, à crier et à se sauver. Les 300 Israélites continuèrent à sonner du cor. Et l'Éternel fit que dans tout le camp, chacun tourne son épée contre son compagnon. Finalement, ils s'enfuirent tous. Versets 21 à 22. Les Madianites, les yeux appesantis de sommeil, paniquent et la plus grande confusion s'enfuit. Tous les Bédouins tirent leur épée et commencent à frapper la première silhouette qu'ils aperçoivent, croyant que c'est un Israélite, et ainsi s'autodétruisent. Les rescapés ne comprennent pas ce qui arrive, mais dans leur affolement, c'est le sauve qui peut. Ils rassemblent leurs familles et troupeaux et sautent sur leurs chameaux pour déquerpir aussi vite que possible. Ils prennent la direction des guets du Jourdain, qui se trouvent à 40 kilomètres au sud du lac de Galilée. S'ils peuvent les traverser, la route sera libre et ils pourront alors filer comme le vent et atteindre les confins du désert en un rien de temps. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 7. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux des tribus de Nephtali, d'Aser et de tout Manassé, s'unirent et se lancèrent à la poursuite des Madianites. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm pour faire dire aux hommes de descendre afin de couper la retraite aux Madianites en occupant tous les points d'eau jusqu'à Beth-Bara et tous les guets le long du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et occupèrent les points d'eau et les guets du Jourdain. Ils capturèrent deux chefs madianites appelés Oreb et Zeeb, et les tuèrent. Versets 23-25. Les 300 hommes ne suffisent pas pour la poursuite. Alertés par des messagers, des renforts arrivent de toutes parts. Les habitants d'Éphraïm sont bien placés pour intercepter, au guet du Jourdain, l'ennemi retardé par les femmes et les enfants, les vieillards et les troupeaux. C'est ainsi que ces deux bandits de grand chemin, Oreb et Zeeb, reçoivent la monnaie de leur pièce. Ces noms de guerre signifient respectivement « corbeau » et « loup », c'est tout dire. Nous voici arrivés au chapitre 8 qui continue l'histoire de Gédéon, mais commence par une altercation. Je commence à lire en compressant. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon « Pourquoi as-tu agi de cette manière envers nous ? Pourquoi ne nous as-tu pas appelés en renfort quand tu es parti combattre les Madianites ? » Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous ? Après tout, c'est à vous que Dieu a livré les chefs Madianites, Oreb et Zeeb. » Ces paroles apaisèrent leur colère. Versets 1 à 3. Les hommes de la tribu d'Éphraïm reprochent à Gédéon son initiative prise sans les consulter. Mais, enfin diplomate, il ne rentre pas dans les détails de son appel par l'Éternel et les caresse dans le sens du poil. Il leur fait remarquer qu'ils sont arrivés pour l'opération finale de nettoyage et qu'en s'emparant des deux chefs, Oreb et Zeeb, ils ont accompli beaucoup plus que lui. Je continue le texte en compressant. Lorsqu'il atteignit le Jourdain, Gédéon le traversa avec les 300 hommes qui l'accompagnaient. Malgré leur fatigue, ils continuaient à poursuivre l'ennemi. Or, Zeba et Salmouna s'était retranché à Kharkor avec leurs troupes qui comprenaient 15 000 hommes. C'était tout ce qu'il leur restait de la grande armée des Bédouins de l'Orient. En effet, 120 000 soldats étaient déjà tombés. Gédéon prit la route des caravanes de nomades à l'est de Noba et de Yogbéa et attaqua le camp ennemi qui se croyait en sécurité. Les deux rois de Madian, Zéba et Tsalmouna, s'enfuirent. Gédéon les poursuivit, il les captura tous les deux et sema la panique dans toute leur armée. Versets 4 à 12. 15 000 Madianites et leurs alliés campaient à l'est de la mer Morte, ayant parcouru 200 kilomètres. Ils se croyaient maintenant en sécurité. Gédéon évite de traverser des villes et emprunte une route désertique pour surprendre et en finir avec les ennemis d'Israël. En cours de poursuite, lui et ses hommes avaient demandé l'hospitalité à deux villes israélites de la tribu de Gad. Mais celles-ci refusèrent, ce qui signifiait qu'elles se comportaient comme des alliés des Madianites, en d'autres mots, des traîtres. Après sa victoire, Gédéon y retourne et châtie les notables avec une grande sévérité. Je continue plus loin. Après cela, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Règne sur nous puisque tu nous as délivrés des Madianites. Ton fils, puis ton petit-fils te succéderont. » Gédéon leur répondit, « Non, je ne règnerai pas sur vous et mon fils ne vous gouvernera pas non plus. C'est l'Éternel qui règnera sur vous. » Versets 22 à 23. Nous apprenons ici pour la première fois que les Israélites désiraient une monarchie héréditaire comme tous les autres peuples alentour. Gédéon refuse parce que cela implique le rejet de la royauté de l'Éternel sur Israël. Je continue. Puis il ajouta, « J'aurai cependant une demande à vous faire. Donnez-moi chacun une boucle d'oreille en or prise sur votre butin. » Les ennemis portaient en effet des boucles d'or car ils étaient ismaélites. « Très volontiers, lui répondirent-ils. Ils étendirent un manteau par terre et chacun y jeta un anneau prélevé sur son butin. Les anneaux d'or que Gédéon avait demandés pesaient près de 20 kilogrammes en tout. Il reçut également les croissants d'or, les pendants d'oreilles et les manteaux de pourpre que portaient les rois madianites, ainsi que les colliers qui ornaient le cou de leurs chameaux. Versets 24 à 26. Au passage, Gédéon prélève une taxe sur le butin des combattants israélites et dans la foulée, il récupère 20 kilos d'or, plus tout le reste, ce qui était l'équivalent d'une fortune. Je continue. Avec l'or, Gédéon fabriqua une statue qu'il installa dans son village à Ophra. Tout Israël s'y prostitua en lui rendant un culte, de sorte que cette statue devint un piège pour Gédéon et pour sa famille. Ainsi, les Madianites furent affaiblis par les Israélites et ils ne se relèvèrent pas de leur défaite. Aussi longtemps que Gédéon vécut, c'est-à-dire encore pendant 40 ans, le pays jouit de la paix. Versets 27 à 28. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris à Gédéon de retourner vers le syncrétisme religieux d'où l'Éternel l'avait tiré? Pourquoi cette statuette et que représente-t-elle? On se rend compte que l'idolâtrie était profondément ancrée dans les tripes des Israélites, même de ceux qui, comme Gédéon, avaient foi en l'Éternel. À cette époque, Israël avait la même tournure d'esprit et vision spirituelle du monde que les Cananéens. Cette idolâtrie grotesque structurait toute leur vie. C'était tellement dans leur conception de la vie qu'ils ne comprenaient ni leur erreur, ni combien ce qu'ils faisaient était mal aux yeux du Dieu d'Israël. Dans sa grâce, l'Éternel tolérait ces pratiques pendant un temps. C'est ainsi qu'il accorda la délivrance, puis la paix à son peuple, qui ne le méritait absolument pas. Avant de jeter la pierre aux uns ou aux autres, il serait bon de considérer ce que nous faisons, ce que je fais, Nous tous, les hommes civilisés du XXIe siècle. Certes, l'idole très en vogue n'est ni Baal ou Astarté, mais Mammon, le dieu de l'argent. Plus un pays est riche et plus ses habitants sont consacrés au matérialisme devant lequel ils s'inclinent bien bas en récitant dans leur messe basse la prière « Je veux, je veux ». Pour ce qui est d'autres aspects du culte cananéen, la prostitution sacrée, l'homosexualité, la bestialité, le travestisme, je crois que notre culture est plus dévouée à ces pratiques qu'il ne l'était. Je continue le texte. Gédéon, fils de Joas, s'en retourna dans sa maison et y demeura. Il eut 70 fils, car il avait de nombreuses femmes. Une épouse de second rang, habitant à Sichem, lui donna aussi un fils qu'il appela Abimélec. Après une heureuse vieillesse, Gédéon, fils de Joas, mourut et fut enterré dans le tombeau de Joas, son père, à Ophra, de la famille d'Abiézer. Versets 29 à 32. Bien qu'il ait refusé de devenir un monarque, Gédéon vivait comme un pacha avec un harem et des concubines qui typiquement demeuraient avec leurs parents. De temps en temps, leur maître, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, venait leur rendre visite pour la nuit. C'est ainsi qu'est né cet Abimélec de malheur et qui signifie « mon père est roi ». Il faut bien noter que c'est Gédéon lui-même qui lui a donné son nom, comme s'il regrettait de ne pas avoir accepté l'offre que lui avaient faite les Israélites de régner sur eux. Ce Gédéon a décidément plus d'une tare à son actif. Il a semé des germes néfastes sur le plan à la fois politique, religieux et moral. Il a commencé comme libérateur et quitte ce monde en laissant des pièges derrière lui, une statuette idolâtre et un fils despote. Tout cela met en place une nouvelle spirale infernale, un nouveau cycle typique qui commence bien sûr par l'idolâtrie. C'est toujours la même vieille histoire lamentable, sauf qu'après Gédéon, il n'y aura plus de période de paix continue pour Israël. Le déclin de la nation se poursuit inlassablement à tous les niveaux. Je continue jusqu'à la fin du chapitre. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal et adoptèrent Baal-Bérit comme Dieu. Ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne témoignèrent aucune gratitude à la famille de Gédéon pour tout le bien que celui-ci avait fait à Israël. Versets 33 à 35. L'impression que donne le texte est que tout Israël attendait avec impatience la mort de Gédéon, cet empêcheur de tourner en rond, pour se donner à cœur joie et sans plus aucune retenue à leur premier amour, les pratiques idolâtres des Cananéens. Nous voici arrivés au chapitre 9 qui traite de la cinquième apostasie du livre des juges avec un tyran de marque et une guerre civile. Je commence à lire. Abimélec, l'un des fils de Gédéon, se rendit à Sichem auprès de ses oncles maternels et leur dit en présence de tout le groupe familial de sa mère. « Posez donc à tous les notables de Sichem la question suivante. Que vaut-il mieux pour vous ? Être gouverné par les 70 fils de Gédéon ou par un seul homme ? Souvenez-vous que nous sommes du même sang, vous et moi. » Ses oncles allèrent répéter ces paroles à tous les notables de Sichem. Ceux-ci décidèrent de suivre son parti puisqu'il était l'un des leurs. Ils lui donnèrent 70 pièces d'argent prélevées dans le temple de Baal-Bérit. Avec cet argent, Abimélec embaucha des vauriens et des aventuriers pour qu'ils le suivent. Puis il se rendit à Ophra où vivait la famille de son père et massacra ses 70 frères, fils de Gédéon, en les tuant sur le même rocher. Seul Yotam, le plus jeune fils de Gédéon, échappa, car il s'était caché. Tous les notables de Sichem et de Beth-Millo se rassemblèrent et proclamèrent Abimélec roi, près du chêne de la stèle aux environs de Sichem. Verset 1 à 6. Cette fois-ci, au lieu de châtier Israël par un peuple étranger, l'Éternel suscite un despote de la pire espèce qui va entraîner une guerre civile. L'utilisation de mercenaires prêts à tous les coups de main était courante dans l'Antiquité. La tournure que prennent ces événements est une bonne illustration d'une parole qu'un prophète a déclarée concernant la souveraineté divine et qui laisse songeur. Je cite le passage. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il veut et qu'il établit roi le plus insignifiant des hommes. Fin de citation. Un peuple obtient généralement les chefs qu'il mérite. La suite de ce chapitre se poursuit par la première des paraboles des Écritures données par Yotam, le seul rescapé des fils de Gédéon. Il s'agit en fait d'une malédiction qu'il prononce contre Abimélec et contre la ville de Sichem. Je continue le texte plus loin. Abimélec gouverna Israël pendant 3 ans. Après quoi, Dieu envoya un esprit de discorde entre Abimélec et les notables de Sichem qui se révoltèrent contre Abimélec. Ainsi, les violences commises contre les 70 fils de Gédéon et leur meurtre allaient retomber sur Abimélec parce qu'il avait tué ses frères et sur les gens de Sichem parce qu'ils l'avaient soutenu pour commettre ce meurtre. Versets 22 à 24. Aucune situation ni aucune personne n'échappe à la souveraineté de Dieu qui veut ici que le mal manifeste ses fruits empoisonnés et appelle le jugement sur lui-même. La suite du récit devient très très complexe, un peu folklorique et surtout cruelle, car il va s'agir d'une guerre civile à l'intérieur des tribus d'Éphraïm et de Manassé, toutes deux issues de Joseph, fils de Jacob. Une bande de vauriens, rival d'Abimélec, gagne la confiance des habitants de Sichem et tous décident de liquider le premier despote. Mais ce dernier a vendu complot. Je continue plus loin avec quelques versets faisant état de la guerre civile. Laissant deux groupes continuer le massacre dans la campagne, Abimélec et les siens vinrent prendre position à l'entrée de la ville. Il donna l'assaut et poursuivit son offensive durant toute la journée. Finalement, il s'empara de la ville et en massacra les habitants, puis il rasa la ville et répandit du sel sur son emplacement. Chacun coupa sa branche et suivit Abimélec. Ils allèrent entasser ces branches autour de la crypte du temple et l'incendièrent avec tous ceux qui s'y trouvaient. Ainsi périrent aussi tous les habitants, 1 million d'hommes et de femmes. Après cela, Abimélec se dirigea sur Thébets. Il l'assiégea et la prit d'assaut. Au milieu de la ville se trouvait une tour fortifiée. Toute la population, hommes et femmes, courut s'y réfugier. Ils verrouillèrent les portes derrière eux et montèrent sur le toit de la tour. Versets 44 à 45 et 50 à 51. En réduisant Sichem en cendres, Abimélec accomplit, bien malgré lui, la malédiction prononcée contre la ville par Yotam, le plus jeune fils de Gédéon et seul rescapé de la tuerie. Ensuite, il s'attaque à Thébets, une autre ville située à 15 kilomètres plus au nord, qui dépendait de Sichem et qui s'était également révoltée contre lui. Il veut répéter son exploit précédent en incendiant la tour où se sont réfugiés les habitants. Je continue le texte. Abimélec parvint jusqu'à la tour et l'attaqua. Déjà, il s'approchait de l'entrée pour y mettre le feu, lorsqu'une femme lui lança une meule de moulin sur la tête qui lui fractura le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui ordonna « Tire ton épée et tue-moi, pour que l'on ne puisse pas dire que c'est une femme qui m'a tué. » Alors son écuyer le transperça et il mourut. Versets 52 à 54. La tâche de moudre le grain était considérée comme trop humble pour les hommes. Elle était donc réservée aux femmes. L'une d'elles avait emmené avec elle la pierre circulaire qui constituait la partie supérieure de son moulin à main et qui pesait plusieurs kilos. Dans la providence divine, elle a fait mouche. Je continue. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimélec tout le mal qu'il avait commis à l'égard de son père en tuant ses 70 frères. Il fit aussi retomber leurs crimes sur les gens de Sichem. De cette manière se réalisa la malédiction que Jotham, fils de Gédéon, avait prononcée contre eux. Versets 55 à 57. Cette histoire met une fois de plus en avant la souveraineté de Dieu dans les affaires des hommes. C'est lui qui installe au pouvoir les tyrans les plus vils et qui les dépose au moment qu'il juge opportun. C'est dur à entendre et à comprendre car cela soulève pas mal de questions, mais tel est l'enseignement des Écritures.